Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussa Oponde.
Améliorer les stratégies des plaidoyers en faveur des femmes, c'est l'objectif de l'atelier sur le plaidoyer de la femme qu'organise depuis mardi à Mbandaka, le centre Carter, en marge de la commémoration du 8 mars. Accord entre la RDC et Dan Gettler, le patron du groupe Ventura annonce la restitution à l'État congolais de tous les permis et licences dans le cadre de la stabilité et du respect des réformes économiques initiées par le gouvernement. Germaine Bouendoua, chef de site à la réserve naturelle d'Itombwe RNI, est notre invitée. Elle parlera de l'apport du leadership féminin dans la résolution des conflits entre les parties prenantes autour de la RNI. Bonjour à tous. À quelques jours de la célébration de la journée dédiée à la femme, le 8 mars, les femmes de la province de l'Équateur font encore face à des inégalités dans les domaines politiques, socio-économiques et culturels, ce qui justifie la tenue à Mbandaka depuis le 1er mars d'un atelier de 5 jours en vue du renforcement des capacités du réseau des femmes engagées à défendre leurs droits fondamentaux. Le centre Carter qui organise cet atelier entend améliorer les stratégies des plaidoyers en faveur des femmes. Parmi les participants, on compte aussi des hommes qui accompagnent les femmes. Ils viennent des structures basées à Mbandaka et dans les territoires d'Ingende. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Certes, il y a quelques changements notés depuis le lancement du projet Voix et leadership des femmes à l'Équateur, ce qu'a affirmé la coordonnatrice du projet au sein du centre Carter et animatrice de cet atelier. Cependant, elle a reconnu la nécessité d'un renforcement des stratégies de plaidoyer pour des résultats meilleurs, résultats relatifs notamment à la participation politique de la femme aux violences sexuelles et domestiques. Marie-Joséphine Ndjaikolo.
Il est vrai que nous voyons certains changements, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas atteindre la parité, comme dit dans la Constitution. C'est ça l'objectif. Je suis venue équiper, les aider à mettre en place des stratégies qu'il faut et pour que leurs actions sur le terrain soient plus efficaces.
Madame Latif Ampoubou est issue du collectif des femmes de l'Équateur Colfec, l'un des partenaires d'exécution de ce projet. Elle estime qu'à partir de cet atelier, il y aura des avancées dans la jouissance des droits fondamentaux de la femme de l'Équateur.
Oui, ça va aider parce que nous venons de recevoir des informations, des capacités pouvant nous aider à formuler des messages clés, de bien identifier les vrais problèmes et orienter ces problèmes aux vrais décideurs. Nous pensons qu'il y aura vraiment des avancées.
Notons enfin que cet atelier, financé par les Affaires mondiales Canada, vise la pleine jouissance des droits fondamentaux des femmes ainsi que la réduction des inégalités entre les sexes. Mbandaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Diakonia, une ONG internationale suédoise, organise depuis jeudi à Bandunduville, chef-lieu du Kwilu, un atelier de renforcement des capacités sur le leadership féminin et les droits des femmes. Cet atelier rentre dans le cadre des activités de la Journée internationale de droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Pour Noël Kabea, chargée de programme de Diakonia, l'objectif est notamment d'outiller les femmes sur la protection et la promotion de leurs droits et de susciter en elles l'ambition d'être leader dont les organes de prise de décision. Le point avec Irène Boma.
20 personnes, dont 17 femmes et 3 hommes féministes, prennent part à cet atelier de formation de renforcement des capacités organisé par l'ONG internationale Diakonia sur le leadership féminin et les droits des femmes. Il s'agit donc des membres et points focaux des organisations de la société civile du Kwilu ainsi que des étudiantes. Le chargé des programmes de Diakonia, Maître Noël Kabeya, parle ici des objectifs de ces assises.
C'est de faire connaître aux femmes leurs droits dans un premier temps, ensuite les outiller et renforcer leur capacité de travail dans la promotion et la protection des dits droits, et ensuite susciter en elles l'ambition d'être leader dans les instances de prise de décision, et notamment en matière de participation politique des femmes.
Pour Iguette Pombou, l'une des participantes, cet atelier est venu mettre fin à l'ignorance de certaines femmes sur leurs droits.
Moi, j'ai aimé vraiment cet atelier parce que il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Alors, comme on est venu nous apprendre notre droit, je suis vraiment très ravie de ça et que toutes les jeunes filles qui sont avec nous puissent connaître leurs droits.
Notez que l'hôtel Ntouaremba à Bandunduville est le cadre qui abrite cet atelier de 5 jours qui va du 3 au 8 mars. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, une soixantaine des femmes détenues à la prison de Beni ont été sensibilisées jeudi sur les questions de droits de l'homme et des violences basées sur le genre en milieu carcéral. L'activité a été initiée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Beni en prélude à la journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Madame Kavira Kitsa, directrice de la prison pour femmes de Beni, parle de l'utilité de cette formation au micro de Marc Marofimbo.
L'utilité de cette formation, c'est pour mieux faire comprendre les femmes, malgré un état à milieu carcéral, qu'on ne doit pas avoir de violence contre ces détenus. Cette formation servira aux détenus de dénoncer toute violence faite contre les femmes malgré qu'ils soient en état de détention. Pour la violation, par exemple, de leurs droits, par rapport même à leur dossier, ils doivent dénoncer toute violence aux autorités compétentes. Les femmes qui sont là, ces rôles-là, exemple, et ils vont diffuser tout ce qu'ils vont apprendre aux autres détenus. Nous remercions d'abord l'unité correction pour militer chaque fois, puisque nous, en tant que femmes, chaque fois, la société a l'habitude de violer beaucoup des droits de la femme, mais l'unité correction milite chaque jour pour les femmes.
Notons que la formation a connu l'accompagnement de l'unité genre et du bureau des droits de l'homme de la MONUSCO. Dans la province de la Tchopo, le tribunal militaire de garnison de Kisangani Tchopo a repris jeudi à la prison centrale de Kisangani l'audience en flagrance des éléments du groupe des forces défense Simba avec en tête le nommé héritier Guy Lumumba. Acheminé à Kinshasa en février 2020, ces éléments au nombre de 30 ont été retournés à Kisangani par la haute cour militaire pour la poursuite de l'instruction de leur dossier au tribunal militaire de garnison et éventuellement être fixés sur leur sort. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Cette première audience a consisté en la présentation des procès-verbaux des détenus, des biens saisis ainsi que d'autres personnes impliquées dans ce dossier. Ceci pour répondre aux devoirs que le tribunal avait assignés au ministère public en février 2020, comme le précise le major Kabuya Mwadiamvita, auditeur militaire de garnison.
Rechercher d'autres personnes qui sont impliquées dans les mouvements, à les interroger, les présenter devant le tribunal, à entendre certains témoins ou d'autres personnes impliquées. Comme nous étions dans une procédure de flagrance, souvent ces devoirs sont demandés au ministère public.
Dans l'attente de la présentation d'autres témoins cités devant le tribunal à la prochaine audience le 15 mars prochain, le président de cette juridiction regrette que toutes les conditions ne soient pas réunies pour la tenue d'un bon procès. Colonel Victor Destin Mungamba.
Vous savez, il y a eu un monde important qui suit les procès. Ce monde n'est pas à mesure de capter, de suivre les déroulements du procès. Alors, la sonorisation fait défaut, les chaises font défaut. Donc, la a un problème sérieux, ce qui n'a pas permis le bon déroulement du procès.
Rappelons que les accrochages entre ces éléments Simba et les FRDC en février 2020 au quartier des musiciens avaient coûté la vie à au moins deux personnes, un élément Simba et un soldat FRDC. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Le député national John Banzalunda dénonce l'attaque perpétrée à Mombwili dans le groupement Kasangana-Niemba hier vendredi par des présumés miliciens Twa. L'élu du territoire de Kalemi dans le Tanganyika fustige aussi l'assassinat du chef de ce village et l'incendie des maisons. Il rappelle qu'il y a quelques mois, il avait alerté le gouvernement central pour pacifier l'axe Kalemi-Niemba et Kalemi-Bendera en proie à une insécurité grandissante. John Banzalunda demande au gouvernement central de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il appelle également à la cohabitation pacifique entre les communautés pour permettre à la population de se concentrer sur le développement. On écoute les députés nationaux John Banzalunda.
Je suis en train de relayer un cri d'alarme, un cri de détresse de la population de Kalemi qui est victime des actes d'insécurité, des actes de barbarie, spécialement à Mumbwili, dans le groupement Kasanga-Niemba. Ce village est situé à 7 km de l'agglomération de Niemba, qui a été incendié par des milices qui sont identifiées comme des milices Twa. et qui ont non seulement incendié le village, mais qui ont attaqué le chef de village et l'ont tué après lui avoir asséné des coups de flèche. C'est une situation qui nous écœure, c'est une situation qui sème une désolation profonde parce que nous voulons une cohabitation pacifique de toutes les couches de la population. Nous voulons que les populations soient concentrées sur les développements, les cas d'insécurité continuent. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la tranquillité pour que les pauvres populations locales puissent vaquer librement à leurs occupations.
Une semaine après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le groupe Ventura, Dan Gettler, le patron du groupe Ventura et Société, donne enfin sa position. Dans un communiqué publié jeudi, Dan Gettler annonce la restitution à l'État congolais de tous les permis et licences dans le cadre de la stabilité et du respect des réformes économiques initiées par le gouvernement. Il estime par ailleurs que la résolution prise par le gouvernement de révisiter les contrats ouvrira la porte aux nouveaux investissements internationaux en RDC. Suivons le condensé de la réaction du groupe Ventura avec Esther Dalafina.
Dans ce communiqué publié par le service de communication, l'homme d'affaires israélien Dan Gettler, le patron du groupe Ventura et société affiliée, remercie le chef de l'État pour l'aboutissement heureux des contentieux judiciaires qui l'ont opposé à la RDC autour des actifs miniers et pétroliers détenus illégalement. Dan Gettler confirme qu'à travers ce protocole signé le 24 février dernier, tous les permis et licences détenus par son groupe seront restitués à l'État congolais. Le patron du groupe Ventura accepte de respecter les procédures de bonne gouvernance de l'entreprise, des réformes économiques initiées par la RDC dans le cadre de l'assainissement du secteur minier. Dan Gettler prend l'engagement d'assurer une surveillance indépendante appropriée de ses activités commerciales et de les mener de manière transparente. Il déplore par ailleurs les restrictions et les fake news qui ont sapé son image et l'ont empêché de poursuivre les affaires au pays, ainsi que le développement d'actifs vitaux pour la venir de l'économie de la RDC. Après l'accord avec la RDC, Dan Gettler a entrepris des négociations avec les autorités américaines dans le but de mettre fin à la procédure initiée contre lui par les États-Unis d'Amérique. Signalons que les actifs miniers et pétroliers du groupe Ventura récupérés par l'État congolais à la suite de la signature du protocole d'accord sont évalués à plus de 2 milliards de dollars américains.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Après leur identification, Caritas Développement Kindu, avec l'appui de CAFOD via Starfound, est en train d'assister 1255 ménages sinistrés de la pluie du 21 janvier dernier de la commune de Mikelenge et Alou Ngouli. Selon le coordonnateur du bureau des urgences, solidarité et partage à Caritas Kindu, cette assistance en liquide se fait par le transfert M-Pesa et chaque ménage reçoit soit 142,9 dollars. L'abbé Christian Kungwa explique au micro de Florence Kiza.
Bien sûr, nous avons débité la distribution par rapport à ces victimes-là. Nous avons identifié 1255 ménages dans des communes. Chaque ménage est en train de recevoir 142,9 dollars. Vu les nombres, nous pensons effectuer 4 jours, si pas 5, puisque nous savons quand il y a une telle activité, il y a toujours des plantes, mais nous pensons organiser dans 4 jours et le 5e jour peut nous aider pour recevoir les plantes et savoir les analyser. D'abord, nous avons fini les ciblages, ce ciblage qui était précédé par l'identification de ces bénéficiaires. Nous avons compilé toutes les listes et après avoir compilé toutes les listes et lors des distributions, nous procédons à l'appel nominal. Commune par commune, nous avons commencé par la commune d'Alungouli. Après la commune d'Alungouli, maintenant nous allons passer à la commune de Mikelenge. Ils reçoivent cette aide par flash transfert. C'est un financement que nous avons reçu à travers notre partenaire qui est CAFOD. Et CAFOD a été financé par Statfound.
À Bénin, une hausse des prix de produits manufacturés s'est fait observer sur le marché. Si les uns parlent d'un problème de l'insécurité sur l'axe Kassindi-Béni et dans la partie est du territoire de Béni en général, les autres indiquent qu'il s'agit de problèmes de rareté de ces produits manufacturés sur le marché, car une bonne cargaison de ces marchandises serait bloquée entre Mombasa et la frontière congolaise. Reportage de Marc Maroufimbo rendu par Guylaine Kassassia.
Sur le marché central de Kilokwa, les sacs de sucre de 50 kilos qui coûtaient $40 coûtent aujourd'hui $55 américains. Un bidon d'huile de 20 litres qui coûtait $25 passe à $46. Les pains de 2000 francs congolais se vendent aujourd'hui à 2500 francs alors que les sacs de riz est passé de 20 à $23 américains. Certains commerçants rencontrés ce matin au marché de Kilokwa et dans les quartiers commerciaux de Matongué disent qu'une importante quantité de marchandises contenant de produits manufacturés est bloquée sur le tronçon Mombasa-Kassindi. D'autres parlent de problèmes sécuritaires sur l'axe Kassindi-Béni depuis le lancement des opérations conjointes FARDC UPDF et les dispersions des EDF qui multiplient des attaques sur ces tronçons. Depuis, de produits manufacturés traîneraient encore dans des entrepôts à la cité frontalière de Kassindi. Tout ce problème aurait donc poussé certains commerçants à faire de spéculation, d'où cette hausse subite de prix. Tous nos efforts pour avoir le responsable de la FEC Fédération de Béni à ce sujet n'ont pas abouti ce vendredi matin. Béni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le régulateur russe de l'Internet a commencé hier à restreindre l'accès à Twitter après avoir bloqué peu auparavant Facebook, ont annoncé les agences de presse russes. Selon Interfax et RIA Novosti, cette décision est basée sur une demande du parquet russe datant du 24 février, le jour du début de l'invasion russe de l'Ukraine. Des journalistes de l'AFP basés en Russie ont pu constater vendredi soir que le fil Twitter ne se rafraîchissait plus.
L'invité.
Germaine Bouendoua dirige depuis 2 années la réserve naturelle d'Itombwe, RNI, située dans les limites des hauts plateaux de Fizi Uvira et du territoire de Mwenga, au sud Kivu. Une première depuis que cette réserve existe depuis plus de 15 ans. La RNI est un massif forestier de plus de 5500 km doté d'une riche biodiversité, dont notamment des espèces endémiques telles que les gorilles des plaines de l'Est. Au cours de cet entretien qu'elle a accordé à Cynthia Bachizi, Germaine Bouindoua évoque l'apport du leadership féminin dans la résolution des conflits entre les parties prenantes autour de la RNI. Suivez.
Madame Bouindoua, bonjour.
Bonjour.
Femme chef de site de la réserve naturelle d'Itombwe, une réserve qui fait plus de 5500 km². C'est un grand défi au quotidien.
C'est un défi, surtout compte tenu de sa gestion, il n'y a pas de partenaires, il n'y a pas aussi un personnel adéquat et ça pose trop de problèmes. Évidemment, il y a des femmes, mais les femmes ne sont pas nombreuses.
Justement, hier, vous avez dit que vous avez 23 agents. Combien de femmes se retrouvent parmi vos agents?
Pour les femmes engagées, j'ai seulement une seule femme.
Alors, est-ce que vous pensez que le fait d'être femme à la tête de ce grand site, c'est un poids pour vous?
Au fait, c'est un poids, surtout quand on n'a pas de moyens financiers. Ça pèse. Et parmi les hommes, il y a ces hommes-là qui croient que quand on est femme, on ne doit pas faire face aux problèmes. Mais non, on est femme, on est créé comme les hommes aussi. Mais au fait, moi je suis partie à la RNI pour montrer aux femmes de notre province que nous pouvons faire quelque chose. Quand on veut, on peut faire quelque chose. Au moment où je vous parle, je viens de faire 2 ans. Et la RNI est maintenant comprise partout. Et donc le nom de la RNI est déjà parti. Pendant les 2 ans que je viens de faire là-bas, ni t'étais la COVID, j'allais avoir des partenaires parce que j'ai eu à contacter dans le monde beaucoup de partenaires, mais malheureusement, qui ont été frappés par cette pandémie.
Lorsque vous avez reçu cette affectation à Itombwe, vous n'avez pas eu peur? C'est quand même loin de la ville de Bukavu.
Bon, au fait, au début là, les gens ont cru que j'allais avoir peur. parce qu'en réalité, il y a mon mari qui a été enlevé sur la route du Tombwe. Mais comme c'est notre devoir, bientôt j'aurai 30 ans dans le service de la conservation de la biodiversité. Et donc, moi je suis partie, je n'avais pas eu peur. Et Dieu merci, je viens de faire les 2 ans sans inquiétude, à part ce qui vient de se passer comme problème, j'ai eu des messages de menaces, en croyant que je serais intimidée, mais non.
Pourquoi vous avez eu des messages de menaces selon vous?
Je vous ai parlé que la réserve naturelle du Tombwe a 3 parties. Il y a la zone à usage multiple. Dans la zone à usage multiple, les activités de routine sont permises. Et dans la zone tempo, c'est la zone qui limite la zone à usage multiple et la zone intégrale. La zone intégrale, c'est ce que la communauté appelle maternité. Donc c'est là où il y a l'agglomération des animaux que nous devons tous, avec la communauté, protéger. Aujourd'hui maintenant, au mois d'octobre 2021, ils ont découvert dans la zone maintenant intégrale.
Dans la maternité.
Dans la maternité. Ils sont partis là-bas, ils ont découvert qu'il y a eu des castérites là-dedans. Et ils ont commencé leur activité à notre insu, nous ICSN. Et tout en sachant qu'il y a eu quand même des conventions de protection de cette maternité, on ne devrait pas passer en dehors de cette convention.
Que faire alors?
Et alors, maintenant, moi j'ai sensibilisé les gens. J'ai demandé aux gens, rappelez-vous de ce que nous nous sommes convenus, ICSN et les communautés. C'était prévu qu'à part la recherche scientifique et les activités de patrouille, donc le suivi des gorilles, personne ne peut entrer là-dedans. Et il y a des écrits même.
Et c'est ça qui vous a amené des problèmes?
Et maintenant des problèmes.
Comment votre leadership féminin peut aider à faire face à ce problème d'exploitation artisanale dans la zone même intégrale de la RNI?
Normalement, selon les textes, on ne peut pas faire cette activité dans la zone intégrale. Et moi, je ne saurais pas passer en dehors de ce qui a été convenu ensemble avec beaucoup des ONG et beaucoup des services de l'État qui s'étaient mis ensemble pour délimiter et des ententes. Je ne peux pas aussi passer en dehors de ça.
Donc, vous êtes vraiment partisane de la ligne dure. Il faut respecter la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.
Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Vous venez de le dire.
Alors, pour terminer, quel message vous pouvez lancer à vos autres collègues, hein, si je peux dire femmes, qui peuvent parfois avoir peur d'être affectées en dehors de la ville, dans les territoires un peu éloignés?
Je demande à mes partenaires femmes d'être fortes. Nous avons demandé la parité et nous devons être aussi conséquentes. Et donc, nous devons travailler directement, même dans les endroits où les hommes nous montrent que la femme ne peut pas. Nous devons tenir debout. Et c'est ça notre engagement dans le développement de notre pays.
Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est par ici que prend fin ce journal, coordonné par Noëlla Louzitou et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci de l'avoir suivi.